Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, tous les jours de la semaine, dans les petits matins de France Culture, ou quand vous voulez, à l'heure que vous voulez, le jour que vous voulez, en passant par le podcast ou l'écoute en différé, disponible entre autres sur l'application Radio France. Tous les mardis, c'est l'actualité des expos et aujourd'hui on va parler de Man Ray et la mode au musée du Luxembourg à Paris jusqu'au 17 janvier. Man Ray et la mode, c'est aussi Man Ray et la photographie, une parenthèse dans la vie de l'artiste polyvalent. Mais une aventure riche et palpitante, car Man Ray, en expérimentateur inspiré, va inventer un genre, la photo de mode. Catherine Ormen, conservateur, historienne de la mode et une des deux commissaires de l'exposition Man Ray et la mode, est mon invitée ce matin. Bonjour Catherine Ormen.
Bonjour.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Man Ray et la mode, Man Ray et la photographie. Il y a en réalité deux expositions en ce moment à Paris qui mettent en lumière cette parenthèse enchantée dans la carrière de l'artiste. D'abord l'exposition Harper's Bazaar au musée des arts décoratifs, consacrée au premier grand magazine de mode new-yorkais, le Harper's Bazaar. Man Ray y a bien sûr toute sa place et partage la vedette avec Richard Avedon. On en a déjà parlé dans le Réveil culturel. Et il y a l'expo Man Ray et la mode au musée du Luxembourg, dont vous êtes une des deux commissaires, Catherine Ormen. L'exposition raconte donc d'une manière chronologique les travaux de Man Ray, photographe, la photo artistique, la mode et la publicité bien sûr tiennent une grande place. Mais Man Ray a aussi fait des portraits d'artistes célèbres, des reportages pour rendre compte des soirées mondaines parisiennes de l'époque. Peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, Catherine Ormen, qu'est-ce qui rend reconnaissable une photo de Man Ray ?
Eh bien, paradoxalement, au début, rien. Il s'inspire de tous les styles existants. Il est pour ses photographies mondaines, justement, ce qui va lui permettre de vivre au début, à son arrivée à Paris. Il copie le style du baron de Meyer. Enfin, il est tout à fait, il cherche son style. Son style, il va vraiment le trouver plus tard, au tournant des années 30, avec des développements techniques tout à fait extraordinaires et qui sont sa patte, qui sont sa signature, en fait.
Ouais, il est vraiment expérimentateur, là.
Absolument. Et ses expérimentations, on va les voir se développer, notamment avec sa collaboration avec Harper's Bazaar, à partir de 1934 et jusqu'en 1939, parce qu'il va être sous contrat avec ce magazine américain prestigieux. Et là, il va vraiment développer tous les aspects qui font qu'on reconnaît que c'est une photo de Man Ray.
Parce que Man Ray est tout à la fois peintre et réalisateur, cinéaste. Catherine Ormen, non, mais parce que ma question, c'est est-ce qu'il va être influencé par la peinture, par le cinématographe pour faire ses photos de mode?
Alors, Man Ray, il faut bien voir que c'est un artiste. Il réclame cette position. Enfin, et tout le propos de cette exposition est justement de montrer que la photographie de mode, dans laquelle il a excellé, parce qu'il a vraiment donné ses lettres de noblesse à ce genre, eh bien, ça va être alimentaire chez lui. Il va considérer ça comme un travail qui n'a pas de prestige, ça l'intéresse pas en fait. Il va être très consciencieux, il va travailler beaucoup, ça va être un technicien hors pair, mais c'est quelqu'un qui ne se revendique pas photographe de mode. Il est artiste avant tout. C'est la raison pour laquelle dans l'exposition du musée du Luxembourg, la première salle fait allusion justement à ce côté dadaïste, surréaliste, où les photos n'ont pas vraiment de rapport avec la mode, mais donnent bien ce qu'est l'esprit Man Ray.
C'est très intéressant cette première partie, parce que il y a aussi l'esprit d'un Américain à Paris dans les années folles.
Hein. Oui,
il y a cette dimension de la fête, avec bien sûr les surréalistes, mais aussi avec les grands artistes de son temps, qui posent sous son objectif. Alors on va pas tous les citer, je vais pas faire du name dropping, James Joyce, Matisse, Gertrude Stein, Jean Cocteau, Coco Chanel, Antoine Artaud et bien sûr la chanteuse française et modèle Kiki de Montparnasse, on en parlera.
Alors, alors, Kiki de Montparnasse, on peut en parler parce que c'est quand il arrive à Paris, il faut qu'il trouve un gagne-pain. Et son gagne-pain, il va le trouver dans la photographie. Alors, il a une première expérience avec Paul Poiret. Il
est le couturier, donc.
Le grand couturier. Il est introduit par Gabriel Buffet-Picabia, mais ça se passe assez mal. C'est un demi-échec dans la mesure où il voulait faire le portrait du couturier. Le couturier n'avait pas le temps, l'a envoyé dans les salons, photographier ses modèles sur des jeunes femmes. Man Ray était très intéressé par les femmes, donc il n'a pas dit non, il l'a fait. Et il a essayé de vendre ses photos à Paul Poiret, mais ça n'a pas fonctionné. Paul Poiret n'en a pas acheté. Il lui a dit de s'adresser au magazine, qu'il pouvait peut-être les vendre au magazine. Il lui a acheté en revanche des rayogrammes. Enfin, ça, c'était une petite chose, c'était un petit geste qu'il a fait.
Des rayogrammes, ça veut dire
quoi ? Des rayogrammes, bah, c'est un procédé tout à fait typique de Man Ray où on pose les objets directement sur la plaque photographique et on se dispense d'un appareil photo. Donc, Man Ray, pour vivre, a commencé à photographier le tout Paris. Et notamment, Kiki de Montparnasse, qu'il a rencontré très vite et avec laquelle il a eu une liaison. Et Kiki de Montparnasse, c'était quand même l'égérie des années folles. Elle connaissait tous les peintres, elle s'était fait portraiturer par de nombreux artistes. Et il y a dans l'expo une photo absolument admirable de Kiki de profil, avec une toute petite coiffure très serrée, comme le veut l'époque. C'est pas un chapeau cloche, mais c'est comme un bonnet. Elle est de profil, elle a un profil extrêmement acéré, avec une petite bouche noire, comme on voit sur le cinéma muet, le sourcil extrêmement épilé. Et elle est royale, majestueuse, elle est magnifique. En 25, il fait la photo d'une mondaine, qui est la comtesse Étienne de Beaumont, et la photo paraît dans le magazine, et la photo est exactement la même. Il y a la même coiffure, il y a le même maquillage, et ce sont ces femmes-là, ce sont ces aristocrates-là qui donnent le ton. Et ce qu'il y a d'intéressant à voir, et c'est la raison pour laquelle dans l'exposition il y a énormément de magazines, c'est que ce sont les chroniques mondaines qui donnent le ton. Ce ne sont pas les rubriques mode. Les rubriques mode sont illustrées par des petits dessins, par des croquis. La rubrique mondaine présente des photographies. Et ce sont ces photographies de ces femmes célèbres, de ces femmes du tout Paris, et Dieu sait si le tout Paris, entre les deux guerres, est quelque chose de bouillonnant et de passionnant, eh bien ce sont ces femmes-là qui donnent le ton.
Alors oui, vous venez de préciser, et c'est très important, Catherine Orman, Man Ray effectue beaucoup de travaux de commande pour les chroniques mondaines, pour la presse, pour Vogue, pour Vanity Fair, pour Revue, donc il va prendre en photo des comtesses et des duchesses, vous venez de le dire. Il va rendre compte, effectivement, de la vie mondaine à Paris. Mais est-ce qu'il met en scène ces photos? Est-ce qu'on peut considérer cette première partie de Man Ray comme Man Ray témoin, avec des photos, je dirais, documentaires?
Oui, Man Ray témoin. Et ces photos de mode, proprement dites, en fait, il va s'initier à la mode au travers des vêtements que portent ces femmes du monde, qui portent de la haute couture, aussi bien par nécessité, parce qu'elles doivent tenir leur rang, que par goût, parce qu'elles aiment les belles choses. Donc Man Ray va s'initier à ce qu'est la couture avec ces femmes. Et puis il va avoir des commandes. Il va avoir des commandes de maisons de couture. Et on voit très bien, il y a deux photos qui montrent très bien que la photo de mode est tout à fait balbutiante. Elle est archaïque. Au début des années 20, les poses sont figées, statiques. Il y a un petit film aussi, qui n'est pas de Man Ray, mais qui montre que le cinéma lui aussi est balbutiant. À cette époque-là, l'image est encore documentaire simplement. Il n'y a pas de geste artistique. Ça viendra plus tard.
Et ça viendra avec lui.
Ça viendra avec lui, notamment.
Notamment avec lui, où c'est vraiment lui qui est à l'origine de cette photo artistique de mode.
Il y en a d'autres. Il y a d'autres qui s'expriment dans un style un tout petit peu différent. Mais Man Ray a cette particularité, c'est que dans cette société où la mode va commencer à prendre une importance très grande, en termes médiatiques notamment, où les couturiers vont passer du statut de fournisseur à celui de personnalité mondaine engagée dans la modernité. Je prends Chanel comme exemple, hein, et ils vont être assez proches. Eh bien, la publicité va se développer. Et c'est l'objet de la seconde partie de l'exposition qui montre que le développement de cette publicité s'intéresse aussi bien à la mode que à tous les produits qui sont liés à la beauté, en fait, à la coiffure, au maquillage,
les accessoires,
aux accessoires. Voilà.
Ils sont d'ailleurs présents dans cette exposition. Mais est-ce que Man Ray a toute la liberté de prendre les photos telles qu'il veut les mettre en scène, telles qu'il les sent?
Oui, justement. Et on fait appel à lui parce que il a cette aura d'artiste, parce qu'il est un artiste surréaliste, parce qu'on sait qu'il va avoir une vision provocatrice, novatrice, parce qu'on sait qu'il va faire des recadrages, qu'il va jouer avec l'image, qu'il va, par exemple, l'œil. Cette publicité pour mascara cosmétique.
Une photo iconique, voilà. Les larmes de...
Ouais. Absolument, les larmes. Alors, au début, c'est juste quand on voit la photo, elle est plutôt banale. C'est Lydia, une danseuse de music hall sur laquelle il a mis des larmes. Et par recadrage successif, il est arrivé à avoir ses deux yeux en très gros plan pour la publicité Cosmécil. Et après, il a recadré qu'un seul œil et c'est devenu une image tout à fait iconique.
Mais parlons de cette image. Par exemple, le fait que c'est quand même le visage d'une femme plutôt inquiète, les yeux sont levés au ciel, ils témoignent d'une inquiétude. Est-ce que c'est une mise en scène de Man Ray?
Oui, absolument, bien sûr, c'est lui qui a tout.
Est-ce qu'il avait aussi la possibilité de choisir ses modèles?
Oui. Alors, il n'y avait pas de modèle professionnel à cette époque-là. Il s'est servi des femmes de son entourage, il s'est servi... Et d'ailleurs, il y a une chose très amusante, c'est que Man Ray photographiait le modèle d'assez loin. Et il se rapprochait au tirage, ce qui faisait que quand il obtenait un gros plan... Il obtenait un gros plan nettoyé de toutes les scories qu'on peut imaginer parce que c'était devenu imprécis. Par exemple, quand vous voyez le violon d'Ingres de dos, ou quand vous voyez une photo de dos de Kiki, avec on voit la plante des pieds qui est sale au départ, on voit le coussin sur lequel elle pose ses genoux, et finalement en recadrant, en enlevant la tête, il arrive à avoir un symbole de femme, en fait, une évocation de la femme plus que un modèle nu.
Un soir, je faisais une pleine eau pour tout maillot. J'avais la peau, nul ne pouvait me voir que le ciel noir. La lune soudain vint s'exhiber. J'allais lui dire ta bouche, bébé, quand j'entends près de moi un cri d'émoi. Il y avait un homme sur un rocher pas assez haut. L'homme a fait oh et moi dans l'eau, moi j'ai fait oh. Il m'a vu nu oh, toute nue oh, sans cache-truc ni soutien machin. J'en ai rougi jusqu'au vaccin. Il m'a vu nu, oh, toute nue. Je me suis par respect humain voilé la face de mes deux mains. Mais je crois bien que par ce geste irréfléchi, j'ai négligé de voiler quelques petits chichis.
Miss Tinguette, en 1926, elle aurait pu croiser Man Ray, mais non. Mais non, il y a plein de photos avec Coco Chanel, avec les grands surréalistes de l'époque, dans cette exposition qui a lieu en ce moment et jusqu'au 17 janvier au musée du Luxembourg. Catherine Orman, vous êtes une des deux commissaires de cette exposition, mais spécialiste de la mode, historienne de la mode. C'est aussi une manière de parler de la mode de l'entre-deux-guerres que cette exposition consacrée aux travaux photographiques de Man Ray.
Absolument, parce que c'est une chance d'avoir 20 années de photographie avec je dirais trois périodes. La période archaïque, celle du début des années 20 où Man Ray photographie encore les modèles d'une manière très documentaire comme pour un dépôt de modèles pour protéger les modèles de la copie. Donc très
basique
voilà, sans effet particulier. Une période, et qui correspond à la période où la mode est droite, courte, flottante, portée sans corset, c'est la mode de la garçonne, cette mode des années 20 qui est assez...
D'ailleurs c'est assez fou, toutes les robes, même les robes de soirée sont courtes, les coupes à la garçonne sont à la mode.
Absolument, et il y a des mannequins de cire qui montrent ça dans l'exposition d'une manière assez parlante. Donc la première partie, c'est assez archaïque. La deuxième partie, je dirais, c'est au tournant des années 30, au moment où la mode devient plus sophistiquée, où elle se rapproche du corps, où les robes se font tailler dans le biais, qui épousent les formes du corps, la femme se fait sculpture. Donc la mode à cette époque-là, au début des années 30 et jusqu'en 35, est inspirée par les statues antiques, et la femme se transforme en une sculpture vivante. Et Man Ray, à ce moment-là, a des cadrages, la photo est très classique. Il cherche une espèce de classicisme, il est apaisé. Ça ne l'empêche pas d'utiliser des solarisations déjà, ou d'utiliser des contrastes enfin, il joue avec l'ombre et la lumière, mais d'une manière très classique. Et à partir de 35, au moment où la mode bascule vers beaucoup plus de fantaisie, où la mode est sous l'emprise d'Elsa Schiaparelli, qui travaille avec les surréalistes, qui propose une mode beaucoup plus fantaisiste, où l'ornement a toute sa place, et bien là, Man Ray, précisément, va travailler pour Harper's Bazaar et développer toutes ces techniques extraordinaires, les superpositions de négatifs, les compositions, recompositions avec deux négatifs à coller ou bien des négatifs qui sont mis ensemble mais décalés.
Les contre-plongées, impressionnantes.
Les contre-plongées, voilà, la vision de l'oiseau ou la vision du ver de terre. Enfin, ça, tous ces aspects-là, il va même utiliser le bellinographe pour sa première publication.
Mais qu'est-ce que le bellinographe?
Bellinographe.
Catherine Hormel.
C'est l'ancêtre du fax. C'est une transmission par téléphone qui procurait au final une image qui n'était pas très bien définie.
Mais c'était volontairement.
Mais c'était parfait voulu, pour la mode, parce que tout d'un coup, on devenait plus abstrait. On ne décrivait plus la robe. On donnait l'idée de la robe, on donnait l'idée de la mode. Et ça, c'est très nouveau, c'est très contemporain, c'est toujours très contemporain. On donne une idée de la ligne et c'est extrêmement dynamique. De plus, Man Ray va se retrouver face à Carmel Snow, qui est la rédactrice en chef d'Harper's Bazaar, et d'Alexei Brodovitch, qui est le directeur artistique. Et ces deux personnes-là vont l'encourager sur la voie de l'avant-garde, en fait, à essayer de promouvoir de nouvelles idées, de promouvoir de nouvelles techniques et de toujours mettre en scène les images d'une manière tout à fait novatrice. Et on le voit très bien.
Et des fois troublante, hein.
Troublante.
Il y a les quelques clichés avec le buste, c'est-à-dire par exemple toute cette série avec des bustes maquillés et habillés, on se pose la question, est-ce que c'est un montage photo? Est-ce qu'il s'agit de vrais mannequins ou pas? On reste très longtemps face à ces photos tellement captivantes par leur mystère et par leur côté un peu sombre et dramatique.
Vous avez parfaitement raison, ça c'est un des points clés de l'expo. C'est justement ce jeu avec le surréalisme. C'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On va transformer un modèle vivant en sculpture, en buste de couturière, et inversement, on va donner un caractère vivant à un buste. Enfin, c'est très troublant et c'est extrêmement efficace. Et il va employer ça pour la beauté, notamment pour illustrer des reportages de beauté. Et ces reportages de beauté qui prennent de plus en plus de place dans les magazines, parce que la beauté participe de cette construction des apparences, construction globale, qui intègre la coiffure, le maquillage, les accessoires, qui intègre la gestuelle. Et tout ça, ben ça se traduit par des images qui sont d'une puissance qu'on a rarement égalée.
D'où l'exposition qui allie aux photos de Man Ray des accessoires, mais aussi les robes de l'époque. Vous avez retrouvé quand même quelques belles pièces de cette époque-là. C'est quand même des années folles, les années 20, oui. Surtout, et puis les années 30.
Oui, ce sont des pièces qui ont été vues par Man Ray. Alors, il y en a deux à l'entrée qui proviennent du patrimoine de Chanel. Une robe de 1927 des années folles, donc brodée, qui a été portée dans une version un tout petit peu différente par une d'une chanteuse de jazz, une autre en crêpe de soie de 1930 qui a été portée par la vicomtesse de Noailles, une de ses personnalités des années folles. Et puis il y a la robe de Lanvin qui a été créée pour l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Celle-ci est tout à fait extraordinaire. Il y a aussi des robes qui illustrent des tendances des années 30, une robe d'Augusta Bernard, une robe très spectaculaire de Madeleine Vionnet, et il y a surtout un manteau de Schiaparelli qui est tout à fait étonnant. La ligne est assez classique, ce manteau appartient au musée de Marseille. La ligne est tout à fait classique, mais quand vous vous rapprochez, vous voyez que les poches sont ornées de petits boutons qui sont ce sont des pétales en porcelaine. Cette porcelaine, les poches sont couvertes de porcelaine, c'est tout à fait hallucinant.
Mais alors pourquoi Manet, qui a gagné sa vie en faisant de la photo, et particulièrement de la photo de mode, a-t-il eu un rapport assez distant avec la photo? C'est-à-dire que quand il retourne aux États-Unis durant la guerre et il ne fait pas de photo, quand il revient en France en 1951, il a envie d'être peintre et pas autre chose. Pourquoi il a ce rapport ambigu avec la photo?
Vous venez de le dire, il voulait être artiste et il voulait être peintre avant tout et il voulait être reconnu comme tel. Donc la photo pour lui était alimentaire, ça lui a permis de bien vivre, d'avoir une résidence secondaire et une voiture, chose que les artistes à son époque n'avait pas. Et voilà, il a occulté volontairement cette partie-là de son travail.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Et aujourd'hui avec Catherine Orman, historienne de la mode et une des deux commissaires de l'exposition Manet Ray et la mode, c'est au musée du Luxembourg jusqu'au 17 janvier. Merci infiniment d'être venu ce matin nous en parler.
Merci à vous, et c'est sur réservation.
Ah oui, par les temps qui courent, c'est vrai, c'est bon de le préciser. Cette émission a été préparée avec Corinne Amar et Cyril Marchand, réalisée comme tous les jours par Vincent Bouchard, avec ce matin Jean-Guy Lamège. Bonne journée.